Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente BFM Academy saison 15, la suite avec Laure Closier.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission BFM Academy. On va revenir sur l'ensemble des 15 saisons qu'on a vécues ensemble. Et oui, la BFM Academy, ça a déjà 15 ans. On va retrouver des anciens gagnants, des anciens coachs, savoir ce qu'ils sont devenus. Il y a même des gagnants qui sont devenus coachs. Comme quoi, tout est possible dans la BFM Academy. On va revenir sur tout ça en première partie. On est avec Jackie Chang. Bonjour, fondateur de Paris Fashion Shop, lauréat du concours en 2019. Ça paraît très loin avec tout ce qui s'est passé, mais c'était en fait l'année dernière.
Hier.
C'est l'avant-dernier gagnant. On va revenir sur votre victoire, savoir où vous en êtes, ce que vous faites aujourd'hui. On est avec Catherine Barba. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Présidente de Catherine Barba Group, ancienne jurée de la BFM Academy, coach entre 2013 et 2015. Donc vous avez fait 3 ans avec nous. Et puis Fabrice Marcella, directeur du Village Baïssé à Paris, qui est coach depuis 5 ans.
5 ans. Bonjour Laure.
5 ans de BFM Academy. Vous avez fait des années tous les deux ensemble ou pas?
Non, on s'est croisés au village, mais je n'étais pas coach. Voilà. C'était Catherine qui l'était.
Elle a pris le relais,
J'ai essayé de prendre le relais.
15 saisons de BFM Academy, des victoires, des évolutions, toujours ce gain, c'est 150 000 euros de publicité. Jackie, vous les avez dépensés, vous avez fait votre publicité.
C'est en train de passer à la radio et à la télé.
Et alors, est-ce qu'il se passe des choses? Est-ce que ça fait de l'émulation?
Énorme. En tout cas, BFM Academy m'a beaucoup apporté. En crédibilité sur le projet que nous avons lancé il y a 4 ans et demi, en légitimité, défendre une mission qui soit concrète, aider les commerçants indépendants à améliorer leur rentabilité.
Alors avant d'en parler, on va revivre rapidement votre victoire. C'était en juin 2019, on regarde et on revient.
Le match du jour oppose Lisson Léon avec Marion Chopin, Paris Fashion Shops avec Jackie Chang, Rocket School avec Cyril Pierre de Gueyère.
Et on va vous apporter deux enveloppes.
Diana Brondel avec Xalis.
Alors, c'est très très serré. Hein. Le quatrième, 19,7%. Je ne vais pas donner le nom, il n'est pas marqué.
Bah non, c'est fait exprès.
Le troisième, 20,2. Le second, 29,3. Et le premier, très serré, 30,8.
Arnaud Montebourg, qui est le vainqueur de cette saison 14 de la BFM Academy?
Le lauréat BFM Academy saison 14 est Paris Fashion Shop, Jackie Zengao-Chang.
Jackie, je vous vois partir. Grosse erreur, venez jusqu'à moi. Vous êtes notre vainqueur de la saison 14. Vous êtes content?
Ravi, Laure. Merci. Et ces 3 mois ont été 3 mois de dingue. Mais le résultat est là. Et je remercie tous les BFM Academy. Je remercie spécialement Chantal Baudron, ma coach. Et toute l'équipe Paris Fashion Shops et tout l'ensemble de...
Bon, maintenant, vous allez accélérer. Qu'est-ce que vous allez faire comme publicité?
On va mettre le booster. On va y aller à fond.
Jackie, on revoit ces images pour ceux qui nous écoutent en radio. Tout le monde se touche, tout le monde s'embrasse. C'était complètement une autre époque. Vous gagnez et puis après, on va s'enfoncer dans la crise sanitaire quelques mois après. Comment vous avez vécu cette crise? C'est une vieille entreprise qui a muté parce que vous avez fait de la digitalisation il y a peu de temps. Comment vous avez vécu cette évolution?
Au fait, le début de la crise au mois de mars, on a commencé avec une baisse de chiffre d'affaires de moins 80% durant les 3 premières semaines. Et je dirais que l'essence même d'une start-up telle que Paris Fashion Shops, c'est d'être agile et d'être réactif et s'adapter vite. Pendant 3 semaines, on a produit plus de 600 sites B2B gratuitement, offerts gratuitement à nos vendeurs sur la marketplace pour qu'ils puissent garder le lien avec leurs clients et continuer à faire du business.
Vous avez digitalisé vos clients?
On a déjà digitalisé nos clients.
Bah là, si vous avez offert des sites, c'est que...
On avait une marketplace qui avait plus de 600 vendeurs à cette période-là. Et pendant cette période-là, au-delà de la marketplace qu'on apportait aux clients, aux vendeurs, on leur proposait, on a développé en espace de 3 semaines de temps, plus de 600 sites B2B offerts gratuitement aux vendeurs pour leur dire, écoutez, vous avez la possibilité, au-delà de la marketplace Paris Fashion Shops, de garder le lien avec vos clients en leur envoyant directement votre site, votre propre site internet.
Quand vous gagnez en juin 2019, ça change quoi ? Ça met un coup de projecteur particulier ?
Je suis passé de 700 contacts sur LinkedIn à plus de 5000 contacts sur LinkedIn. Déjà ça fait, c'est énorme, c'est énorme. Une grande visibilité. Du jour au lendemain, on vous envoie des messages, on vous contacte de partout.
Vous avez même été dans Forbes.
Là, c'est la cerise sur le gâteau.
Il vient pas avec sa revue très acquis, il vient avec les magazines complètement. La consécration, deux pages dans Forbes.
Une double page dans
Une
Forbes.
Une double page, c'est quand même pas mal.
Un combattant dans la mode.
Et pourtant, au moment où vous voulez postuler à la BFM Academy, je me souviens que vous racontez, je fais le dossier à la dernière minute, le vendredi soir, juste avant, après c'est fini, il reste une journée.
C'était la veille de la Saint-Valentin, si je me rappelle bien.
Oui, c'est ça,
voilà.
Je me souviens.
Le dossier était parti à 21h, juste avant d'aller dîner avec mon épouse, et on était parti du bureau à 21h, en ayant cliqué sur le bouton « Envoyer à Laure Closier ».
Dis donc.
Je reçois directement l'ensemble des dossiers que je traite personnellement. Catherine Barba, vous étiez donc coach avec nous entre 2013 et 2015. C'est quoi votre souvenir du programme, des candidats ?
Je garde une grande tendresse, moi, pour ce programme, parce que j'ai l'impression qu'en 2013, c'était un peu la jeunesse de la Startup Nation. On n'en parlait pas, d'ailleurs, à l'époque. Il y avait assez peu d'entrepreneurs, il y avait évidemment beaucoup moins de femmes qui entreprenaient, on ne parlait pas de grosses levées comme aujourd'hui. C'était un peu vraiment le début d'un grand mouvement qu'on connaît aujourd'hui. Donc, j'en garde un souvenir plein de tendresse. Je garde en tête des candidats que j'ai beaucoup aimés. Je ne sais pas si je peux les citer.
Bien sûr, allez-y, oui.
Je me rappelle d'Ornicard.
Ouais.
J'étais un peu vexée, enfin j'étais un peu frustrée parce que j'aurais bien aimé qu'il gagne, qu'il propose donc l'alternative pour passer son permis de conduire. Je crois qu'aujourd'hui, il représente 20% du marché. Je me souviens évidemment de Yann Ascoët, de chauffeur privé devenu capitaine.
Puis racheté par Daimler.
En 2017. Et je me souviens de sa présence. Je me disais, les gars et les filles qui gagnent, c'est pas simplement parce qu'ils ont une belle proposition de valeur, mais c'est parce qu'ils savent occuper l'espace, ils savent raconter une histoire.
Et alors Yann Ascoët, il a perdu face à quelqu'un qui a découvert de piscine. Hein. Comme quoi.
Mais je me rappelle bien. Mais il avait perdu, Yann.
Oui, absolument.
Ouais, d'accord. Tu vois, pour moi, c'était quelqu'un
face
qui avait gagné.
Face à des couvertures de piscine personnalisables.
Ouais,
qui a moins bien marché depuis. Mais
exactement. Et après, dans les filles, je me souviens de Isée. Qui n'était pas arrivé jusqu'en finale, mais c'était une petite start-up qui faisait à l'époque, c'était le tout début de la lingerie pour les poitrines menues et qui a fait un beau chemin puisque depuis, Etam a pris une participation dans son capital et au My Cream aussi, qui
parce
est
qu'en fait,
un énorme
au début,
site.
C'était pas ce système-là de pitch et puis de présélection. Il y avait des duos et des battles et donc au départ, toutes les semaines, il y avait
exactement.
Quelqu'un qui était éliminé. Donc il fallait faire un choix, c'était pas le même fonctionnement, d'où chauffeur privé qui s'est retrouvé éliminé, alors que en fait peut-être il aurait pu continuer. Est-ce que vous en avez suivi quelques-uns des candidats après?
En fait, j'ai pas investi parce que c'est pas le principe de l'émission
non
plus.
Oui.
Mais j'ai regardé évidemment dans la presse et quand je voyais les noms, il y a Marion.
Marion Escoffon qui sera avec nous tout à l'heure de Tiwal.
Tiwal, c'est extraordinaire. Donc j'aimais bien dès que je retrouvais en fait un nom d'un lauréat, d'un candidat que j'avais rencontré, j'avais un peu l'impression d'être proche. Et c'est
vous les coachiez essentiellement sur la communication. Ils en avaient besoin à l'époque parce qu'aujourd'hui, quand on les voit, ils sont rodés au pitch, ils sont rodés à la com. Là, en 2013, il y avait un vrai besoin.
C'était moins rodé, je pense, effectivement. Il y avait eu moins d'exemples, donc forcément, les gens étaient moins habitués. Mais bon, les ingrédients pour faire un lauréat, un gagnant aujourd'hui, ça reste les mêmes. Ouais. C'est quelqu'un qui connaît bien son sujet, qui connaît bien son marché, qui a une vraie proposition de valeur, qui a une conviction pour la défendre, qui a l'air d'être un bon vendeur, et puis qui maîtrise le digital, effectivement. Donc, les fondamentaux n'ont pas changé, mais c'est vrai qu'il y a une maturité indéniable qu'on voit dans tout l'écosystème aujourd'hui.
Même chez des jeunes, le gagnant de cette année, Meditech, a 25 ans. Hein, donc, ils sont assez matures, mais ils sont quand même assez jeunes. Absolument, il a 25 ans. Fabrice, vous avez fait donc 4 années de BFM Academy. Le cocktail pour être le gagnant, qu'est-ce que vous percevez ?
Je pense que Catherine l'a déjà évoqué. Effectivement, il y a le projet qui est porté par l'entrepreneur, sa proposition de valeur, mais c'est aussi sa capacité à nous convaincre, sa capacité à nous donner envie, en tout cas, de continuer à le suivre, de l'emmener en finale, sa capacité aussi à convaincre le public. Parce que ce qui est compliqué quand même le jour de la finale, c'est que souvent les candidats se perdent à essayer de convaincre le jury. Or, le jury ne vote pas. Et c'est bien le public qu'il faut essayer de convaincre. Et souvent, finalement, il y a des entrepreneurs qui se perdent à ce moment-là.
Mais c'est parce qu'ils sont challengés aussi.
Mais c'est extrêmement compliqué.
Les coachs attaquent
maintenant. C'est très, très dur.
Les coachs attaquent les candidats. Ouais. Le système est un petit peu... virulent. Jackie, la finale, c'est un peu déstabilisant parfois.
Ah oui, quand même.
On va dire que c'est toujours surprenant. Quand on vous attaque sur le marché, sur votre business, alors que vous connaissez votre business par cœur et qu'on vous dit si un gros arrive et que finalement il va vous écraser, le gros qui va arriver. Sauf que le gros, chacun son métier, je dirais.
Mais les questions qui vous sont posées au final, pendant la finale, pendant les coachs qui vous attaquent, c'est des questions que vous connaissez et vous challenge sur des petits morceaux de vos business, mais vous connaissez vos faiblesses en fait.
Si vous baignez dedans votre business, forcément vous les connaissez. Donc quelque part, à la limite, je dirais que la finale était beaucoup plus facile pour moi que le premier pitch.
Ah oui.
Les 2 minutes de pitch, c'était horrible, Laure.
Mais c'est vrai, je me souviens.
Je parlais comme un robot,
ouais,
j'étais
je
là.
Sais. Je me souviens bien, c'est vrai que le pitch n'était pas là.
Mais non, mais dis donc, que Laure, elle est comme ça, elle intimide tout le monde aussi.
Moi, je suis une terreur.
Mais Jackie est un animateur né. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas dans les images, c'est comment il a animé aussi toutes les phases entre... la demi-finale et la finale avec les autres startups. Il y avait des soirées qui étaient organisées pour lier des liens avec chacune des autres startups. Pareil, au moment de la finale, c'était lui qui rassurait quasiment les autres finalistes.
Je suis un bon fêtard, alors.
Oui, alors, je confirme, effectivement.
Alors, on est avec Jonathan Benhamou, cofondateur de PeopleDoc, avec nous sur les lignes. Il est avec nous en Skype. PeopleDoc a participé à la BFM Academy en 2010. Bonjour, Jonathan.
Bonjour à tous.
Salut.
Alors, qu'est devenu PeopleDoc depuis qu'il a fait la BFM Academy? Tout a changé. C'était, j'imagine, un événement qui a tout changé.
Oui, non, effectivement, on s'appelait NovaPost à l'époque quand on a fait la BFM Academy.
Ouais.
En 2010, alors moi j'avais 26 ans aussi et c'était bien avant la vague de start-up de la Start-up Nation française. Depuis 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai déménagé en 2013 à New York. On a changé de nom, on s'est appelé PeopleDoc. J'ai vécu 6 ans à New York et on a vendu PeopleDoc en 2018 à un groupe américain qui s'appelle Ultimate Software. C'était une boîte cotée au Nasdaq. Et depuis ce rachat, on a été re-racheté. En fait, la boîte qui nous a racheté s'est fait re-racheter par le plus gros fonds d'investissement au monde qui s'appelle Hellman & Friedman. Donc on est sorti de la cote et on est devenu une boîte privée. Six mois après, on a fusionné avec une nouvelle société qui fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc moi, je suis passé en fait en 2 ans d'une société de 450 employés à 12 000 employés, d'un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros à 3 milliards de dollars. Et puis j'ai déménagé, je suis revenu en Europe en 2000, l'année dernière et j'habite aujourd'hui à Madrid et c'est pour ça que je ne suis pas sur le plateau parce que sinon j'aurais adoré être avec Catherine et le reste des invités.
Mais nous aussi, on aurait aimé être avec
Alors,
toi.
Vous vous souvenez de Catherine comme coach? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté au cours du programme?
Alors, Catherine, moi j'étais en 2010, Catherine était en 2013, je crois, coach, donc je ne l'ai pas eu comme coach. Moi j'avais eu Eve Etchegaray.
Absolument.
Exactement. Mais à l'époque, c'était pas le même principe. Nous, on était arrivés en demi-finale, on avait perdu contre Limonitik, qui je crois a gagné cette année-là. Et on était voisins de bureau en plus, donc c'était ça chambrait après la finale. Mais non, je me souviens très bien de l'énergie qu'on a dépensée pour essayer de gagner, parce qu'il fallait rassembler le maximum de votes. Et puis de l'impact en fait qu'a eu la BFM Academy sur nous, parce que quand on est en 2010, on est peut-être 20 employés, on a très peu de clients. Et en fait, l'impact média d'un concours comme celui-ci est énorme. Ça permet de gagner une crédibilité des clients, d'attirer de nouveaux employés. C'est assez génial.
Et
je m'en rappelle toute ma vie.
Le plateau télé, tout ça, ça vous stresse ou pas?
Oui, complètement. Ça stresse. Oui, ça stresse beaucoup. Je crois que d'ailleurs, c'était la première fois que je passais à la télé. C'était. C'était impressionnant. Impressionnant, mais après, ce que je trouvais sympa, c'est que les coachs étaient plutôt rassurants. C'était une belle. C'était avec Nicolas Dose, en plus, qui peut avoir des questions assez pertinentes et assez intenses. Mais c'est un beau souvenir.
Il crée des business, même parfois, Nicolas. Il fait pivoter des business. Vous avez pensé à faire du B2B? Non, mais c'est vrai, il y a eu des vraies évolutions de business suite à des questions de Nicolas, quand même.
C'est vrai.
Enfin, en tout cas, quand on voit Jonathan ou d'autres succès qui sont passés par la BFM Academy, on se dit qu'il y a quand même eu du nez, quoi, hein, dans le casting. Ouais. Et puis, parce que moi, ce qu'a fait People Doc, je suis extrêmement admirative, quoi, du parcours de Jonathan. Et effectivement, ce qu'il a dit est très juste. C'est quand on vient ici, on attire, bon, au-delà de la crédibilité, c'est qu'on attire les talents. On est visible, alors qu'on est une toute petite boîte, on se rend visible. Et le succès d'une entreprise, vous le savez comme moi, hein, c'est la qualité. Il faut que des Top Gun dans l'équipe.
Bah oui, c'est ça, Jackie. Est-ce que sur le recrutement, attirer les talents, attirer les meilleurs pour bosser avec vous, ça a eu un impact ?
Absolument. On est passé de 30 à l'époque de la BFM Academy saison 14. Aujourd'hui, on est 45 collaborateurs et on continue à recruter de nouveau pour pouvoir accompagner la croissance. Mais BFM Academy, ça a été un propulseur. Pour moi, comme disait Catherine à l'instant, pour moi, je dirais que la BFM Academy, c'est plus un détecteur de pépites. Vous arrivez à détecter beaucoup de belles boîtes aujourd'hui. Et c'est génial quand on voit des valos ou des levées de fonds de toutes les boîtes qui sont passées dans la BFM Academy et qui sont devenues des licornes et des géants. C'est génial.
Jonathan, c'est quoi l'objectif là ? Vous allez être revendu une énième fois ou...
Ça suffit maintenant. Non,
ça y est, c'est fini là. On continue. Non, mais... L'objectif, bah, là, on fait partie d'un grand groupe, donc c'est différent. J'apprends tous les jours. Hein, j'ai été au board d'une boîte côté au Nasdaq, donc c'était hyper intéressant. Maintenant, je suis patron de l'international de cette grosse boîte. Et puis à côté, j'investis beaucoup aussi. Donc j'investis dans pas mal de boîtes qui passent à la BFM Academy.
Vous n'avez pas été tenté de partir vivre aux Bahamas et d'arrêter de bosser ?
Non, j'ai 37 ans, moi, donc j'ai encore beaucoup de temps devant moi. Non, mais là, je réfléchis, je regarde pas mal de choses. Je m'intéresse beaucoup à la santé en ce moment, à la recherche contre le cancer, par exemple. C'est un de mes gros sujets en ce moment. Non, j'ai envie de retravailler, j'ai envie de remonter une autre aventure avant de prendre ma retraite dans quelques années. Mais c'est pas assez, non, la question. Mais bon, l'Espagne, c'est quand même pas mal. Hein. Madrid, c'est quand même un paradis.
C'est pas les Bahamas, c'est déjà pas mal. Fabrice,
c'est pas loin.
Je voulais réagir sur ce que disait Jackie. Jackie, en plus, a su exploiter le filon BFM Academy. C'est-à-dire qu'il a gagné, mais il a surfé sur la BFM Academy quasiment pendant 15 mois. Il était aussi dans Le Parisien. Il a fait des fêtes pour fêter sa victoire. Il est venu parler aux autres entrepreneurs, notamment au village, pour leur donner envie de participer à la BFM Academy. C'est un formidable promoteur. C'est un ambassadeur du prix.
Oui, mais c'est tout à fait. Mais l'être aimé, il y a cette énergie qui est propre à l'émission, je trouve, et qui dynamise à sa manière l'écosystème, et ça se voit dans les candidats qui viennent, dans Nicolas et Laure, et puis dans les coachs. C'est bon aussi quand on est coach de se pluguer à l'énergie folle, la vision du marché, cette vision de rupture des candidats. Moi, je trouve que ça fait du bien à tout le monde, en fait.
C'est quoi la prochaine étape, Jackie ? Se revendre ?
Oh, pas de suite. La prochaine étape, si on voit horizon 5 ans, c'est de faire partie de ce que notre président dit, les 25 premières licornes françaises, c'est d'être la première licorne dans la fashion.
Donc c'est la levée de fonds à 300 millions.
On verra.
Il faut être ambitieux.
Oui, il faut être ambitieux. Quand on a une équipe audacieuse, on peut y aller. Donc tout est réalisable. Donc on peut y aller.
S'il y a bien quand même quelque chose, Fabrice, notamment qu'on a vu ces dernières années dans les candidats, c'est que ceux qui gagnent, ce sont les bosseurs invétérés. C'est ceux qui n'arrêtent pas, on a vu ça chez Jade de We Maintain, on a vu ça aussi chez Jackie. C'était pareil avec le candidat de Meditech. C'est-à-dire, il y a une virgule qui manque, il vous appelle la nuit pour dire vous êtes trompé, c'est pas si c'est ça. Il ne rate rien, il ne s'arrête jamais.
Tu fais bien de le dire parce que, en fait, moi, je vivais au rythme des entrepreneurs. Et c'est vrai que le samedi, le dimanche, pour préparer la finale, les répètes le vendredi soir, enfin, ben, j'étais dans leur rythme, effectivement. Et ils sont, effectivement, ultra méticuleux. Ils font vraiment attention à chacun des mots, à la manière dont on va leur poser les questions, et surtout la manière dont ils vont y répondre. Donc, oui, c'est des gros, gros bosseurs. Ouais.
Mais
il n'y a pas de secret.
Je me souviens de Jade Francine qui a gagné avant Jackie, un an avant. Moi, je disais, elle fait de la réparation d'ascenseur. Elle m'envoyait systématiquement un message pour dire qu'elle faisait de la maintenance et que ça n'avait n'avait strictement rien à voir.
Ouais, tout à fait.
Bon,
précision.
Mais elle a raison en fait, parce qu'en fait le marché n'est pas le même. Donc en fait, en fonction d'un mot, ça change. Et ça fait gagner. C'est ce qu'on a remarqué. Mmh. Catherine, vous attendez quoi maintenant des jeunes start-upeurs que vous croisez lors des festivals, mais il n'y a plus beaucoup de festivals de start-up, mais dans les réunions, dans les émissions, vous attendez quoi maintenant?
En fait, déjà, je suis investisseuse, donc j'attends des participations qui sont les miennes, qu'elles marchent.
Déjà, ouais.
Que ça transforme, qu'elles passent cette époque un peu étonnante du mieux possible. Donc je continue à accompagner les participations que j'ai, et j'essaie d'investir dans des start-up mixtes. J'essaie toujours de promouvoir la diversité, parce que je suis persuadée que c'est un facteur, une solution pour traverser la crise, parce que tu t'entoures de gens qui sont différents de toi et donc qui ont une autre perspective sur le business. Donc qu'est-ce que j'en attends? Enfin, je continue à les accompagner.
Ils évoluent quand même sur le profil. Nous, ce qu'on a vu sur les 15 ans, c'est qu'on est passé de l'homme de 35 ans qui a monté un projet seul, à des binômes, à des trinômes, à des femmes qui ne sont plus du tout sur des business genrés. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de pousser les 30% de femmes, ça vient tout seul à nous, donc ça évolue quand même.
C'est bien d'être un agent, de photographier cet équilibre qui est en train de se créer, parce qu'on a besoin de mettre le projecteur sur les femmes, mais pas que, sur des équipes diverses, parce que c'est ça qui va aussi encourager les autres. Donc moi, je veille beaucoup à cette diversité qui m'est chère.
Au village, Fabrice, vous voyez quand même les profils évoluer aussi?
Les profils évoluent, mais ça évolue doucement. Donc à nous d'animer en fait le recrutement de nos startups en essayant de diversifier davantage finalement les personnes qui se présentent à nous, qui ne se présentent pas naturellement à nous. Donc c'est vraiment notre job à nous que d'aller les chercher, de les faire venir et les accompagner à ce moment-là.
C'est pas si évident que tu le dis.
C'est pas si évident.
Les choses sont pas équilibrées encore.
Mais c'est de moins en moins difficile. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'avant il fallait vraiment pousser. Aujourd'hui, pour avoir 30% de candidates à la BFM Academy, on n'a pas besoin d'aller chercher dans des dossiers qui potentiellement seraient pas remontés. C'est de moins en moins dur. C'est ça que je veux dire. Jackie, prêt pour la suite, c'est de devenir coach, c'est tout. C'est ça la suite. Ça va être pareil pour Jonathan. Tu es prêt à devenir coach pour la BFM Academy
pour la saison 3000.
Pour la saison 300.
Pas de suite.
Jonathan, je sens que vous avez un peu de temps là en avril prochain. Coach pour la BFM Academy. Je recrute.
Ah, avec plaisir. Avec grand plaisir pour le coup. Non, en plus, je pense qu'il y a 10 ans, c'était mon rêve. Je me suis dit, un jour, je serai coach de la BFM Academy quand j'étais. Donc, avec grand plaisir.
Mais on peut exaucer vos rêves très facilement dans la BFM Academy. C'est juste que, bon, faut pas qu'on soit confiné ou des choses comme ça. Parce que, quand même, on a passé une saison extrêmement compliquée à la BFM Academy. On fait rarement des finales en septembre, mais en octobre même. Mais on s'est adapté. Agilité dans la BFM Academy comme pour les startups. Merci beaucoup, Jonathan Benhamou, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Fabrice Marcella, directeur du village Baïsé à Paris. Merci à Catherine Barba, présidente de Catherine Barba Group. Et merci à Jackie, qui a gagné, donc Jackie Chang, fondateur de Paris Fashion Shop, gagnant en 2019. Restez avec nous, dans un instant, on sera avec des gagnants qui sont devenus coachs, des anciens coachs et encore des gagnants. On va tout mélanger, faire une grande salade. Ça va être super intéressant. À tout de suite.
BFM Business présente BFM Academy saison 15, la suite avec Laure Closier.
Et oui, BFM Academy, la suite, que sont-ils devenus les candidats, les coachs? On revient sur 15 saisons de BFM Academy. Il s'en est passé des choses et je suis toujours avec Fabrice Marcella, directeur du village Baïsea de Paris. Je suis également avec Marion Escoffon, cofondatrice de Tiwa, lauréate du concours en 2014. On va faire un point sur ce qui s'est passé depuis. On est également avec Cyril Pierre de Gaillère, président de Rocket School, ancien candidat. C'était il y a deux ans, c'était l'année dernière.
L'année dernière.
En finale, vous avez été. Et puis, on est également avec Sylvain Aurébi qui ne le connaît pas, président de Cosmity, ancien juré de la BFM Academy pendant quoi ? 10
7
ans ?
7 ans, 7 ans.
Allez, 2011-2017.
Exactement.
Vous êtes un des plus vieux, là.
Ça se voit pas, j'espère.
Je veux dire, en coach, vous avez beaucoup d'expérience, c'est ça que je veux dire.
Beaucoup d'expérience. J'ai eu beaucoup de candidats, j'ai épuisé beaucoup de candidats pendant ces 7 années, mais j'ai eu beaucoup de plaisir.
Alors cette année 2011-2017, en 2011, quand vous rentrez dans la BFM Academy, la Startup Nation, ça n'a strictement rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Vous avez des candidats qui ont peur, qui ne savent pas comment s'exprimer à la télé. Ils sont dans quelle ambiance?
Non. D'abord, ils étaient à la radio, alors ça simplifie un peu les choses. Pendant deux saisons, je crois qu'on a fait la radio. J'ai eu des candidats qui étaient un peu moins précis, un peu moins aguerris, mais enfin qui parlaient quand même... très bien, on avait Goudgou, qui en 2012, peut-être, qui a gagné. Michael, qui était très bon, Michael Aubertin, qui a été excellent à la radio. Il y avait Aïwazine l'année précédente qui avait gagné aussi. François Leclerc, et c'était des gens qui se débrouillaient très bien devant un micro.
Mais alors vous, en tant que coach, vous essayez de leur apporter quoi? Parce que toute l'expérience que vous aviez à travers Que Smithy, ou des petites touches comme ça, c'était un travail un peu... pas à plein temps, mais c'était quand même un peu de travail.
Non, mais c'était, en fait, on les challengeait. Moi, mon boulot, ça a toujours été de les pousser dans leur retranchement, de leur montrer leurs défauts, de montrer les failles de leur entreprise pour justement les faire progresser. C'était pas du tout de leur donner des conseils, c'était vraiment de leur montrer là où ça n'allait pas.
Vous êtes encore plus méchant que moi.
Oui, oui, largement. C'est pour ça qu'on n'a jamais été ensemble.
Bah oui, c'est pour ça. Trop de méchants d'un coup, ça s'annule. Ça s'annule, en fait. Marion, est-ce qu'au fond, vous avez cofondé Tiwal, vous avez gagné en 2014. Vous vous souvenez de ce moment? On va revoir quelques images, mais ça vous a marqué?
Alors ça m'a marqué. Honnêtement, j'ai jamais pu regarder de nouveau l'émission. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a marqué. C'est une chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être challengée. J'ai eu le plaisir d'être un peu chatouillée sur certaines questions par Sylvain.
Alors on va revenir dessus, mais juste avant, si vous n'avez pas vu les images, on va regarder ensemble votre victoire.
Ça va être le moment quand même de vous donner le résultat définitif de cette finale de la BFM Academy. Alors vous le savez, on a eu 56 entrepreneurs qui sont venus. Il y a eu 4 éliminatoires, il y a eu 2 demi-finales. Là, il y a une finale avec 2 entrepreneuses, des projets très différents mais hyper séduisants. D'un côté, Clémentine Charles avec Pop in the City et ses raids urbains et toute cette dimension de business model autour de l'agence de communication qui ne dit pas son nom. De l'autre côté, on a Tiwal. Tiwal avec ce bateau qui n'est qu'un début, on l'a bien compris. J'ai dans cette enveloppe le résultat définitif qui cumule les voix du jury, qui cumule les voix du public ici présent, qui cumule également les voix des téléspectateurs et auditeurs de BFM Business qui sont prononcés jusqu'à 20h10 sur le bfmbusiness.com. Donc je sors ce papier pour vous dire que le vainqueur de la BFM Academy de la saison 9 est Tiwal, qui l'emporte. Je vais même vous donner le détail des scores. Elle a 78 points et Clémentine 72. Voilà, c'était quand même relativement serré, on va dire. Félicitations, petite réaction, comme ça. Marion.
Merci. non, c'est absolument génial. Ça va vraiment beaucoup. C'est un sacré coup de pouce. Et vraiment, on est très très heureux de cette confiance. Merci.
Marion, est-ce qu'au fond, vous êtes assez surprise quand vous gagnez? Vous n'y attendez pas du tout?
J'étais persuadée d'avoir perdu. J'ai trouvé que Clémentine Charles était vraiment exceptionnelle. On la sentait solide. Vraiment, j'étais persuadée d'avoir perdu.
Alors, depuis que vous avez gagné, vous avez vendu 1600 Tiwal. Ce sont des... Alors, expliquez-nous exactement, vous expliquerez mieux que moi ce que c'est.
Alors, les Tiwal, donc le Tiwal, c'est un bateau qui tient dans 2 sacs. C'est un bateau gonflable, donc avec une nouvelle technologie gonflable. Donc, c'est très, très rigide. On a en fait un vrai bateau qui se monte en 20 minutes, qui tient dans 2 sacs. On peut transporter absolument partout. Alors, aussi bien dans le coffre d'une voiture que dans les soutes d'un bateau, parce qu'on a sorti un nouveau bateau qui se transporte voilà, aussi dans les, pour, comme un jouet au mouillage. Et donc c'est un bateau qui permet de plus avoir de contraintes. On met très facilement son bateau à l'eau, on n'a pas besoin de cale de mise à l'eau, on n'a pas besoin de remorque pour le transporter aussi. Donc l'idée c'est de retirer toutes les contraintes pour garder juste le plaisir de pouvoir aller sur l'eau.
Donc vous en avez vendu 1600 désormais. Qu'est-ce qui s'est passé juste après la BFM Academy?
Alors juste après la BFM Academy, je vais peut-être un petit peu plus large sur les, parce que c'était il y a quand même un petit moment, donc je ne pourrais pas vous dire exactement tout de suite après. Mais depuis en fait, donc on a vendu beaucoup de bateaux, on a beaucoup de capitaines au travers le monde qui nous font confiance. On a créé aussi un site internet marchand, donc on avait déjà un site internet, mais là marchand, donc ça va plaire à Sylvain qui m'avait titillé sur la question pendant la BFM Academy. Et aujourd'hui, le marché des États-Unis est devenu notre premier marché. Donc c'était notre objectif. Et maintenant, grâce à toute cette confiance, le nouveau produit aussi qu'on a sorti, on remporte un beau succès.
Du coup, vous êtes aux États-Unis une partie de votre temps ou vous organisez comment?
Alors on reste en France. Tout est fait en France et tout est fait. Donc le challenge pour nous, c'était d'expliquer notre produit. Donc on a un site qui explique de manière très claire en fait notre produit aux États-Unis. Ça, c'est un sacré challenge parce que vendre un produit à 6000 euros aux États-Unis, à l'autre bout du monde, sans pouvoir justement montrer le produit, c'est pas tout à fait évident.
Et ça marche.
Et donc ça marche.
À côté de vous, Cyril Pierre de Gaillère, président de Rocket School. C'était l'année dernière, vous n'avez pas gagné, mais depuis cette finale, il s'est passé quoi?
Ça a beaucoup évolué. En fait, ça nous a donné une belle visibilité.
Vous, vous êtes une école.
On est une école, c'est ça. On est dans tout ce qui est reconversion vers les métiers du numérique, qui sont des métiers où il y a énormément de besoins. Et ce qui est extra, c'est qu'avec la visibilité qu'on a eue, on a eu un appel d'air, ce qui fait qu'on a pu ouvrir à Lyon juste après. Et on a ouvert, là, on est en train d'ouvrir à Nantes et Marseille, avec des objectifs et des envies d'ouvrir encore dans d'autres villes. Et globalement, ce qui est extra, c'est que l'année dernière, quand on a fait la finale, on avait à peu près une cinquantaine de personnes qui étaient en reconversion. Et là, depuis, on a dépassé les 400. Et là, dans 10 jours, on va dépasser les 500 personnes qui ont été reconverties sur des métiers qui sont des métiers avec des beaux salaires, avec des belles perspectives d'emploi pour tous les gens qui nous ont suivis.
Le tampon BFM Academy, ça a été utile ?
Ça a été utile, oui, parce que ça nous a donné de la visibilité. On a des candidats qui sont venus parce qu'ils ont entendu parler du projet Rocket School, justement, à la BFM Academy. On a des entreprises qui sont venues et qui nous ont dit, j'ai besoin de recruter des commerciaux, je vous vois passer à la BFM Academy, du coup, je fais appel à vous. Donc, ça a été un vrai accélérateur et même, surtout, j'aurais tendance à dire, pour nos étudiants, nos apprenants, c'était une vraie plus-value et une fierté, en fait, d'être en visibilité.
Fabrice Marcella, vous restez en contact avec les candidats que vous avez suivis. Alors bon, le système était un peu différent de celui qu'a connu Sylvain. Vous les suivez, hein, vraiment, il y a un duo qui se crée avec votre candidat.
C'est vrai que la mécanique actuellement, c'est de créer ces duos et cette proximité qui se crée avec chacun des candidats. Et toutes les fois où c'est possible, toutes les fois où ça fait sens, pour le candidat comme pour moi, on essaye effectivement de maintenir ce lien, soit de créer du business ensemble, soit de continuer à se suivre tout simplement. Et peut-être que par la suite, on peut imaginer un avenir commun. Certains ont rejoint même d'ailleurs l'aventure du village. D'autres nous rendent finalement des services dans le village qui nous permettent d'être beaucoup plus performants que sans ces startups.
Vous avez gardé, Sylvain, des liens avec des anciens candidats?
Bien sûr.
Vous avez investi peut-être même?
Non. Non, parce que ça ne me paraissait pas souhaitable au plan déontologique d'investir dans chez des candidats. Oui, mais enfin bon, c'était quand même compliqué. Non, je n'ai pas investi, mais j'ai suivi. J'ai même utilisé leur service. Créads, par exemple, qui était un candidat. Ronan Peloux, qui avait des graphistes en ligne. J'ai utilisé pour travailler mon logo d'Orientis. Contract Live, qui est devenu Concorde. C'est les contrats qui sont en ligne sur le cloud, qu'on utilise toujours. Donc j'en ai revu un certain nombre, on les a suivis. Je trouve qu'il y a eu des très belles réussites.
Au village, vous utilisez Julie Desk aussi.
Alors, ouais. On utilise Julie Desk. Ouais. Mon agenda est géré par Julie. Je l'appelle Julie.
Qui n'est toujours pas une personne. Ouais.
Qui n'est toujours pas une personne. Mais souvent, d'ailleurs, quand des personnes se présentent à l'accueil du village, ces personnes demandent Julie. Hein, mais voilà, c'est ultra performant. C'est une bonne manière, en tout cas, de parler d'intelligence artificielle de façon très concrète.
Alors, on est en ligne avec Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy, ancienne coach à BFM Academy, mais aussi lauréate du concours en 2009. Bonjour, Evelyne.
Bonjour, Laure.
Alors, ça fait un petit moment que vous avez gagné. C'était maintenant il y a 11 ans. Ouais. Quel souvenir vous en avez de ce moment où vous gagnez?
C'est incroyable. C'est un souvenir magique. Donc, il y a 11 ans, donc j'étais 11 ans plus jeune, donc une quarantaine d'années. Et franchement, ma boîte débutait. Donc, on avait 3 ans d'existence à peu près. Et ça a été, je pense, il y a la naissance de mes enfants. Et puis après, il y a la BFM Academy, je pense, en termes de joie.
Ah oui. D'accord, mais c'est puissant quand même comme sentiment. Et alors, du côté business, ça a décollé derrière, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, alors pourquoi ça? Parce que véritablement ça a décollé. Alors c'est vrai que ça a été une année assez magique parce que on a gagné la publicité, mais aussi on a été très très relayé en demi-finale, finale. Donc en fait, j'ai une visibilité qui était énorme sur BFM cette année-là. Et donc moi j'avais un business qui faisait moins d'un million d'euros. Aujourd'hui, ça fait presque 10 fois plus. Et c'est vraiment la pente ascendante, elle s'est passée cette année-là grâce à cette visibilité-là. Donc oui, je dois beaucoup, beaucoup à BFM et à BFM Academy.
Vous êtes devenue ensuite coach pendant plusieurs années. Est-ce que vous avez retrouvé chez les candidats des peurs que vous aviez, vous, au moment du concours, ou ils étaient différents quelques années plus tard ?
C'est un peu différent parce que c'est vrai que moi j'avais envie de gagner. J'ai fait un travail de préparation complètement dingue pour cette finale-là. Je me suis vraiment concentrée pour gagner. Et c'est vrai que j'ai essayé moi d'accompagner les candidats à cette concentration-là qui n'était pas naturelle. C'est-à-dire que je pense qu'on se rend pas compte qu'à un moment donné on vit une finale, on a des concurrents en face de soi et que ça se travaille. Et j'arrive pas en disant je fais une émission comme une autre. Et donc souvent tous ceux que j'ai accompagnés. Je les ai vraiment accompagnés. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de Clémentine Charles de Pop in the City, qui avait été excellente, même si elle n'avait pas gagné. Mais on avait énormément travaillé sa finale. Et c'est vrai qu'elle a été excellente.
Et elle réussit d'ailleurs très bien. Hein. Son business se porte très bien. Et vous avez vu quand même les start-upers évoluer dans leur manière de se présenter, de travailler leur business. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont totalement aguerris au pitch et à la communication ou il y a encore des choses à faire?
Ben, je pense que techniquement parlant, ils sont bons, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous donner des chiffres, des business plans, il n'y a pas de souci. En général, en plus, on est des gens qui ont fait certains niveaux d'études. Donc techniquement, ils sont bons sur la partie communication, empathie, sur la capacité de comprendre pourquoi on pose cette question et pas une autre. Il y a certaines subtilités encore, mais c'est aussi lié aussi au stress, hein, parce que je pense que beaucoup d'entre eux, parfois, c'est leur première télévision, mais c'est vrai que ça demande encore de la préparation. Disons qu'on, je pense que pour un jeune qui arrive avec son business et qui a donc plusieurs stress, hein, qui a le stress de parler de son business, le stress de parler en télé, etc., je pense qu'il y a encore un travail de préparation à faire et que c'est important parce qu'on n'a pas deux fois l'occasion de passer à l'antenne, de pouvoir expliquer ce qu'on fait, de raconter son pitch. Je pense que Laure, vous avez l'habitude, vous en avez vu plein des pitchs passer quand vous faites le tour des régions. Et c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile pour tout le monde et je pense que tout le monde n'imagine pas le travail qu'il faudrait faire en amont pour essayer d'être bon quoi et d'être percutant.
Alors c'est pas facile, mais moi quand même ce que je remarque au fur et à mesure, c'est que le pitch est devenu un exercice trop convenu, ils arrivent au casting, ils disent vous voulez une minute 32 minutes, c'est un pitch investisseur, c'est un pitch pour le grand public, vous voulez quoi. Et moi je choisis comme ça. Est-ce que il faudrait pas inventer un nouvel exercice?
Bah, je pense qu'il faut mettre de l'émotion dans son pitch, et c'est pas parce que le pitch est convenu qu'il est bon. Je pense qu'en plus, il doit dépendre de la personne qui est en face de vous, du média dans lequel vous êtes. Donc, ça reste encore quand même un exercice où on n'y va pas en automatique non plus avec des phrases toutes faites. Donc, ça demande de l'émotion. Il faut être malin aussi. Il faut savoir qu'est-ce que j'ai à dire à ce moment-là, dans ces conditions-là, face à ce journaliste-là. Et peut-être face à aussi, en ce qui me concerne, à ce jury-là, s'il a détecté qui allait choisir et qui allait sélectionner.
Merci beaucoup Evelyne d'avoir été avec nous. Evelyne Plannicohen, fondatrice de Booster Academy, ancienne coach et ancienne gagnante de la BFM Academy. À très bientôt. Sylvain, bon, vous en avez vu hein, des candidats défiler. Vous avez déroulé du candidat. Vous avez vu des candidats défiler devant vous. C'est quoi leur plus gros défaut? Ils sont quoi? Ils sont parfois, ils n'aiment pas la critique. De temps en temps, ils sont un peu sensibles quand même.
Oui, ils sont sensibles. La plupart, déjà, sont très jeunes. Et c'est presque leur première expérience. C'est ça qui est extraordinaire. C'est leur première boîte, pratiquement. Ils se lancent. Donc, évidemment, ils n'ont pas encore tous les trucs des vieux routiers de l'entrepreneuriat. Mais ils apprennent vite. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'ils apprennent extrêmement vite ce qui ne va pas. Ils comprennent ce qu'on leur explique. Ils acceptent. Finalement, la critique, vous dites qu'il l'aime pas. C'est vrai qu'il l'aime pas, mais il l'accepte. Et il se sert de cette critique pour progresser très vite. Et moi, je vois qu'il y a des candidats incroyables. Enfin, on les voit partout à la télé aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont réussi, dont les boîtes sont extrêmement connues, comme Chauffeur Privé, qui a changé de nom, qui a été vendu à Daimler. Il y avait Drivee aussi. Alors moi, j'ai eu en demi-finale Drivee contre Chauffeur Privé. Il fallait en choisir un des deux. Finalement, c'est Chauffeur Privé qui a gagné. Mais Drivee a fait une réussite extraordinaire. Paulin de Menton a fait une réussite extraordinaire par la suite. Donc, c'est des personnalités incroyables. C'est des gens qui ont vraiment des choses à raconter et qu'on retrouve partout aujourd'hui dans la vie économique du pays.
Mais Marion et Cyril ont dit parfois, bon, vous n'aimez pas toujours la critique, mais en même temps, pour être entrepreneur, à un moment donné, il faut y aller. Il ne faut pas écouter tous ceux qui vous disent, il ne faudrait pas, tu te trompes, tu ferais mieux de rester tranquille.
Bah, ce qui est délicat en fait, c'est de il faut tenir la barre, tenir son cap, être sûr de soi, et parfois c'est vrai qu'on peut avoir certaines questions qui peuvent être un peu déstabilisantes, et c'est pas toujours évident d'affirmer ses positions. Après, c'est vrai qu'il y a certaines questions aussi qui amènent à réfléchir et à se demander, tiens, est-ce que je prends le bon chemin ou pas. Donc c'est, il faut trouver la bonne mesure entre voilà ce que je prends et ce dont je suis sûre en fait. Voilà.
Il faut vraiment être persuadé.
C'est pas votre première boîte, hein, vous aussi, donc.
Non, mais il faut être persuadé de son sujet. Et je fais prendre l'exemple même de Fred Mazzella de Blablacar. Il a attendu 8 ans avant que ça marche. Moi, j'ai investi au début de Blablacar, c'était covoiturage.fr. J'avais l'impression de leur rendre service, quoi. Et quand on voit maintenant ce que c'est devenu, Frédéric, il avait ça en tête. Il s'est dit, j'avance, j'y crois. Et moi, c'est pareil. Quand on a créé Rocket School, se dire, on va créer une école où on recrute les gens que sur leur personnalité. Une école qui est gratuite. Tout le monde me disait, comment tu vas faire pour gagner de l'argent, tu vas pas tenir pendant 6 mois. Et là, on a 400 personnes, on a un équilibre financier. À un moment, quand on est persuadé de ce qu'on a envie de faire, bah, faut y aller à fond. Mais faut savoir écouter.
Mais c'est difficile de faire le tri entre la bonne et la critique qui est juste toxique. En fait, comment on fait le tri, Fabrice ?
Je sais pas si on fait le tri. En tout cas, et je le vois au quotidien dans le métier que je fais, hein, qui est de l'accompagnement d'entrepreneurs. Les entrepreneurs qui nous rejoignent viennent là finalement pour être coachés, avoir des idées et des regards un petit peu différents sur leur business model, de pouvoir être confrontés aussi à des points de vue d'autres entrepreneurs. À la fin, néanmoins, ça reste l'entrepreneur qui décide, en fonction effectivement de ses convictions, de sa croyance, en tout cas qu'il a dans le projet qu'il porte. Donc, au final, ça reste lui. On fait pas d'ingérence, même si on lui apporte des regards différents.
Sylvain Aurébi, si vous aviez lancé Cosmity là, vous auriez fait la BFM Academy ?
Non, parce que je trouve que les animateurs sont pas très sympas, les coachs sont trop durs.
Et vous aimez pas trop la critique.
Et j'aime pas trop la critique.
C'est clair.
Mais je ne suis plus jeune, c'est ça un peu le problème.
À la BFM Academy, les gens sont de moins en moins jeunes. Il y a maintenant une évolution sur l'âge du candidat moyen, clairement. Donc vous voyez, on est ouvert. Hein.
Bon, je tenterai ma chance la prochaine fois que je montrerai une boîte alors.
Non, mais vous aimeriez bien redevenir coach
Non.
Allez,
7 ans, il faut passer à autre chose. Et puis il y a des tas de gens qui méritent d'être coach. C'est un job tout à fait passionnant, mais non, c'est terminé. N'essayez pas, même en direct,
de me
faire dire que je reviendrai.
Non, mais il ne faut pas faire des promesses qu'on ne tient pas, ça c'est la règle. Mais chez les candidats que vous avez suivis quand même pendant longtemps, il y en a qui vous ont plus étonné que d'autres. Au-delà du business, sur les personnalités ?
Bah oui, évidemment, je pense à une vraie personnalité, Romain Dessalle, Time to Sign Off, qui envoie une newsletter tous les jours, TTSO.
TTSO, ouais. Ah
oui. Regardez, c'est...
Il a fait la BFM Academy.
Bah évidemment.
Mais pas avec ce business-là, si.
Avec ce business-là. Il n'a pas gagné, mais il était là. C'est formidable. C'est une vraie personnalité, Romain. Guillaume Gibault aussi,
du Sud
français. C'est des vraies personnalités. Pauline Léniaud de...
Gémio.
Voilà, qui est aujourd'hui... Alors non seulement elle vend des bijoux, mais c'est une espèce de Laure Closier du podcast, quoi. C'est...
Ça n'existe pas.
Si. Bah, écoutez, là, vous allez voir.
C'est moi-même, Laure Closier du podcast. Non, mais c'est vrai, il y a des personnalités qui ont émergé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on recherche quand même dans la BFM Academy, des personnalités un peu clés. Mais du coup, la communication, je trouve, quand même, a pris quand même beaucoup le pas sur la présentation du business. Non, il n'y a que moi qui...
Non, mais les entrepreneurs sont ultra entraînés à communiquer de façon quasiment réflexe. Lorsqu'on leur demande de pitcher, ces entrepreneurs pitchent. Et généralement, c'est toujours très bien. Mais effectivement, il y a des vraies personnalités ensuite qui portent ces projets. Moi, je me souviendrai toujours de Jade Francine en coulisses avant de rentrer sur scène. Enfin, c'est tout juste si elle ne menait pas un combat de boxe pour se défouler avant de rentrer et d'être à fond pour la finale et réussir à emporter cette finale. Marion Chopin, c'était pareil. Enfin, ce sont des personnalités qui, en plus, prennent beaucoup de temps à répéter, vraiment dans le détail. C'est des personnalités très investies dans leur projet.
Marion, vous aviez travaillé votre storytelling ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Et c'était... disons que j'ai une histoire qui fait que j'ai pas tellement à le travailler parce que l'histoire est assez rigolote. C'est mon père qui voulait pas me prêter son bateau et qui fait que du coup j'ai dessiné le Tiwal en fait. C'est un peu un pied de nez. Donc du coup c'est une histoire qui est tout de suite très enthousiasmante. Et puis après effectivement il faut travailler toute l'histoire, comment je présente le business, et du coup en ça c'était un exercice vraiment très intéressant, des belles rencontres et en même temps des un beau challenge pour se présenter.
Il y a la question des chiffres aussi à la BFM Academy. On vous demande de donner les chiffres d'affaires. Certains refusent. Est-ce que vous acceptiez d'être transparent sur le business plan ? Cyril ?
Alors, on m'a posé la question et j'en ai parlé, mais c'était tout sauf évident parce que sur Rocket School, on est sur un projet sociétal et de dire un étudiant égale 4, 5, 6 000 euros, c'est quelque chose qui, moi, me gênait plus d'un point de vue. Pas tellement en tant que com, c'est que c'est un projet qu'on a lancé parce qu'on avait envie d'aider la société et de réduire ça à un aspect financier, on l'a quand même fait.
Ça, c'est du storytelling aussi.
Ouais, c'est vrai. Ça pourrait.
A priori.
Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de sur les projets sociétaux, en tout cas comme ceux sur lesquels on est, de parler d'argent, c'est pas du tout évident.
Marion, vous étiez transparente sur les chiffres ?
Écoutez, oui, il y a pas de raison de pas. Enfin, pour nous, il y a pas de raison de pas être transparent sur les chiffres.
Il y a des candidats qui refusent, hein, qui veulent pas donner les chiffres d'affaires, qui catégoriquement, et ça leur porte préjudice à chaque fois. Enfin, pas dans leur business, mais dans l'évolution du programme. Sylvain, vous vouliez tout.
Oui. Mais moi, j'ai même proposé à une époque qu'on vire les candidats qui donnaient pas leur chiffre d'affaires, parce que c'est une émission de business. Si vous arrivez pour raconter une histoire et que vous donnez pas les chiffres de votre business, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, j'étais du genre méchant à les assaisonner un peu quand ils donnaient pas leurs chiffres. Et c'est très très important. Enfin, on n'est pas là pour raconter des histoires uniquement. On est là pour faire du chiffre au bout du compte et pour réussir et pour créer des emplois. On crée pas d'emplois sans chiffres.
Fabrice, vous en avez au quotidien des startups 90, non, au village ?
90, ouais.
Ouais.
90 et c'est
ils
quoi
font tous des, ils font non mais ils font tous des petits mensonges dans leur petit coin. Ils en regardaient pas mes chiffres.
Non, ou... alors si ça pour que ça puisse fonctionner avec des startups qu'on accompagne, il faut une forme de transparence et en même temps de confiance. C'est ce qu'on essaye de, c'est le contrat qu'on passe avec chacune et chacun de nos entrepreneurs. Donc la plupart communiquent leurs chiffres et l'idée c'est surtout de travailler sur le développement de la boîte. Donc on n'est pas là non plus pour partager ces chiffres avec l'extérieur du village. Mais il est vrai que toutes les fois où une startup dans le concours finalement cache une information, ouais, elle est souvent finalement, il y a un focus qui est fait souvent.
Déjà on fait que de lui dire.
On lui dit, mais non, pourquoi tu n'en parles pas, et ça arrive en finale, ce genre de choses.
Ouais,
hein,
c'est vrai. Prochaine étape pour Rocket School.
Prochaine étape, là on ouvre du coup deux nouvelles villes. L'objectif c'est d'en ouvrir encore d'autres. Et on a un autre projet plus loin qui est de faire un algorithme anti-chômage. Aujourd'hui on s'est aperçu qu'on pouvait toucher 9% des candidats et dans 95% des cas leur retrouver un job. Ça avec trois métiers, et plus on aura de métiers, plus on pourra toucher de monde et plus on pourra permettre à un gros volume de gens de se reconvertir vers le numérique, vers tous ces métiers qui sont en tension.
Marion, vous visez quoi ? La Chine, l'Europe peut-être, non ?
Eh ben, on va continuer de se développer aux États-Unis parce qu'on commence tout juste en fait à conquérir ce marché. Donc on continue petit à petit et avec les outils qu'on a mis en place.
Eh bien, excellente continuation, Marion, cofondatrice de Tiwal. Marion Escoffon, merci beaucoup. J'ai ma chaise qui se baisse en même temps que je parle. C'est très agréable. Cyril Vierdeguillère, merci beaucoup d'avoir été avec nous, président de Rocket School. Fabrice Marcella, directeur du village Baïssé à Paris. Et puis, bien sûr, Sylvain Aurélie, président de Que Smithy et ancien coach de la BFM Academy. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à très bientôt pour la saison 16.
BFM Academy. Ils y croient, mais croirez-vous en eux ?